Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Rediffusion du 2 août 2009. Chers amis, nous rendons aujourd'hui hommage à Olivier Clément, historien et théologien orthodoxe mort à Paris au mois de janvier dernier. Olivier Clément fut une des figures les plus marquantes du monde orthodoxe en Occident dans la seconde moitié du XXe siècle. Né dans le sud de la France en 1921, dans un milieu déchristianisé, et après avoir traversé une période de recherche spirituelle qui a abouti à sa rencontre avec les textes de deux penseurs russes, le philosophe Nicolas Berdiaïev et le théologien Vladimir Lossky, et également de la pensée patristique d'Orient, Clément reçoit le baptême dans l'Église orthodoxe. Au cours de cet hommage, nous avons l'occasion d'entendre des extraits d'enregistrements anciens de Clément, où il s'exprime sur plusieurs sujets que nous pourrons commenter en compagnie de Franck Damour, professeur d'histoire, essayiste et auteur d'un livre sur Olivier Clément, ouvrage qui s'intitule « Olivier Clément, un passeur, son itinéraire spirituel et théologique », paru en 2003 aux éditions Anne Sigier. Mais peut-être pour commencer, nous allons entendre Olivier Clément lui-même. C'est un extrait ou plusieurs extraits d'une émission que nous avions réalisée avec lui en 2004 dans des conditions un peu difficiles. Clément était déjà très affaibli par la maladie, donc on entend cette difficulté physique, mais il est intellectuellement très parlant, très fort, très présent. Et la question que je lui avais posée à l'époque concernant son cheminement spirituel et sa manière de rencontrer le Christ était si le Christ peut être lié à un milieu.
Je ne pense pas que le christianisme soit lié à un milieu. Parfois, la présence d'un milieu peut aider, mais parfois aussi, et la rencontre se fait à partir d'une recherche dépouillée, et ce qui a été le cas pour moi. J'ai cherché, et je ne dirais pas j'ai trouvé, je dirais plutôt j'ai été trouvé à un moment donné. Alors pourquoi ? Cela, on ne peut guère le dire.
Alors, nous avons poursuivi l'entretien et il a répondu à la question « Quoi et qui peut déclencher cela ?»
Je pense que c'est un besoin intérieur, c'est une quête et c'est une rencontre. Il est difficile, quand on veut vivre pleinement, de ne pas se poser un certain nombre de questions sur le sens. Quel est le sens de toute cette affaire ? Pourquoi vit-on ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Pourquoi meurt-on ? Et que se passe-t-il quand on meurt ? Et finalement, il y a des traces du christianisme dans notre culture, que nous le voulions ou non. Enfin, il nous est difficile de nous promener à travers l'Auvergne, par exemple, sans rencontrer de magnifiques églises romanes. Ces églises disent quelque chose. Pour moi, dans le Languedoc méditerranéen, il y a eu quelques églises romanes qui m'ont questionné et qui m'ont apporté un certain silence. Un certain silence construit par l'homme, mais qui recoupait mon propre silence intérieur. Et puis, il y a les évangiles. Il est difficile de ne pas les rencontrer à un moment ou à un autre de sa vie. Bien sûr, on peut aussi bien lire le Coran ou la Bhagavad Gita, mais les évangiles nous touchent, peuvent me toucher, m'ont touché d'une manière incroyable. À travers les évangiles, il y a quelqu'un, il y a une présence. Et c'est cette présence qui pose à la fois question et réponse.
Et voilà ses réponses à la question « Est-ce que les évangiles peuvent toucher l'homme actuel ?»
Je pense que oui. Il n'y a qu'à voir l'expérience qui s'est produite à Paris et pendant les 10 dernières années, où presque chaque hiver, il y avait un acteur qui, tout simplement, lisait l'Évangile. Et des centaines de personnes, des milliers de personnes sont venues écouter. Donc, l'Évangile, si nous savons le lire, le recevoir, nous apporte une rencontre. Et peut-être cette rencontre est-elle d'autant plus brûlante, émouvante, bouleversante parfois, que nous ne savions rien. Et parfois même, d'ailleurs, nous sommes, ça a été mon cas, écartés par certaines expressions de Jésus, dans l'Évangile, surtout quand il affirme que lui et lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Au début, nous ne comprenons pas. Nous disons, mais il y a d'autres révélations, il y a d'autres écritures sacrées. Pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Parce que celle-là n'est pas comme les autres, justement. Non pas que je n'ai beaucoup de respect et beaucoup d'intérêt pour toutes les révélations que l'on peut trouver à travers l'espace du monde et l'espace de l'histoire. Mais là, il y a une parole qui est une parole inouïe, proprement inouïe, je crois. Et c'est cela qui permet la rencontre. Et la rencontre, alors, introduit à l'Église, car immédiatement la question se pose. Il y a des passages de l'Évangile, je pense notamment au 6e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, où il y a ces paroles extrêmement abruptes, où Jésus parle de son corps et de son sang, et dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle », et il emploie des mots grecs très, très crus, trogein, qui signifie manger, dévorer. Et pourquoi ces paroles viennent-elles là? Et comment, si nous nous intéressons au Christ, pouvons-nous les réaliser? Où trouver la chair? Où trouver le sang? Sinon, dans le mystère eucharistique. Et où trouver le mystère eucharistique? Sinon, dans l'Église.
Voilà, donc Franck Damour, au-delà de l'émotion que suscite évidemment l'écoute de la voix d'Olivier Clément, qui n'est plus avec nous, nous allons essayer de commenter un tout petit peu et essayer de lire sa pensée. Vous la connaissez très bien, vous connaissez évidemment toute son œuvre et vous avez écrit un livre qui justifie tout à fait son titre. Vous dites son itinéraire spirituel et théologique. Donc vous tracez un tout petit peu les pas de cet homme qui a connu quand même des changements assez forts dans sa vie. Alors, si vous voulez, en peu de temps, comment on peut résumer sa vie à partir du moment où il naît, il évolue dans ce milieu déchristianisé et jusqu'au moment où il entre dans le christianisme?
Olivier Clément est un des grands convertis du XXe siècle. Et ça, c'est un point qui a toujours été central dans sa vie, dans sa pensée, dans sa quête. Il est souvent revenu sur ce parcours. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il cite l'évangile de saint Jean. C'est assez frappant parce que c'est un évangile qu'il a retrouvé dans la table de chevet de son père après la mort de celui-ci. Preuve que dans cette famille où il a grandi, dans ces familles où il a grandi, il y avait une présence secrète, souterraine du christianisme qu'il a su discerner par la suite. Mais cette présence, elle n'était pas explicite. Et c'est vrai qu'il a cherché, porté par des questions de fond, le sens de la mort, l'affrontement au visage des autres, l'affrontement à la violence. Il a connu la guerre, il s'est engagé dans la résistance. Et il a eu une quête profonde, un petit peu dans toutes les directions, s'intéressant aux spiritualités orientales, s'intéressant aussi aux spiritualités occidentales oubliées, et puis s'intéressant aussi aux recherches scientifiques, disant beaucoup les poètes. Voilà, il y avait une quête profonde et puis une rencontre qui s'est faite progressivement avec la tradition orientale chrétienne. Alors il y a d'abord eu la lecture d'un livre de Berdiaev qu'il a trouvé pendant la guerre et puis ensuite la rencontre avec Vladimir Lovski.
D'accord. Alors est-ce qu'il y a des textes de lui dans son œuvre qui reflètent ce cheminement?
Alors bien sûr, c'est d'abord essentiellement L'autre soleil, qui est un essai d'autobiographie spirituelle où il raconte l'essentiel de ce parcours et ce qui fait de lui un converti ouvert. Vous savez, la conversion peut parfois amener à une certaine fermeture et Olivier Clément est un converti ouvert, accueillant à toutes les formes de recherche ou de quête, comme il évoquait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a entendu. Et L'autre soleil est un cadeau, un don fait de cette transmission, de ce parcours-là. Alors, dans sa quête, il y a une personne très importante qui était son premier maître et qui, je trouve, résume assez bien cet esprit d'ouverture. C'est Alphonse Dupron. Alors, c'est un historien qu'on a oublié, ou que peu de personnes connaissent, mais qui a été un fondateur important de l'anthropologie religieuse. Et Olivier Clément, sous sa houlette, a découvert et a rencontré justement un peu les soubassements spirituels de l'histoire humaine.
Merci. Alors, peut-être si vous voulez bien, on va continuer. On va maintenant entendre des extraits d'une émission qui a été diffusée en 1993, qui s'appelait « Littérature pour tous ». Olivier Clément répondait au sujet de son livre « Questions sur l'homme » aux questions que lui posait Françoise Favier. Premier sujet abordé dont on va entendre un extrait est celui du cœur. Il fait une analyse anthropologique où il parle de l'intelligence, il parle du désir et du cœur qui est au centre de l'homme. Alors on va peut-être d'abord l'entendre et puis nous allons le commenter.
Tantôt la Bible parle du cœur de pierre, du cœur qui devient dur. Tantôt elle parle de ce cœur émietté. C'est la dipsychia, le dédoublement profond de l'être que l'on trouve évoqué dans l'épître de saint Jacques. Et aussi cette réponse très, très, très étonnante du démon expulsé par Jésus d'un possédé, le possédé galarénien. Jésus lui dit « Quel est ton nom ?» Il dit « Mon nom est Légion ». Il y a donc à la fois une décomposition et un durcissement du cœur profond. Le cœur symbolisant ici, non pas du tout uniquement nos facultés sentimentales, mais la profondeur la plus profonde, le centre le plus central de notre être. Et je crois véritablement c'est ce cœur que nous oublions à l'heure actuelle. Nous vivons dans notre tête et dans notre sexe, et nous oublions ces espaces du cœur. Nous les laissons en friche, il faut les éveiller. Il faut se rendre compte que le désir d'une part et l'intelligence de l'autre doivent se métamorphoser dans le creuset du cœur profond.
Voilà donc ce qu'il disait en répondant à Françoise Favier sur le cœur, centre de l'homme. Y a-t-il des textes de lui qui reflètent cette pensée ?
Alors c'est vrai que la théologie d'Olivier Clément était une théologie avant tout anthropologique. Autant sa spiritualité était théologienne, visée à dire Dieu, autant sa théologie visait à penser l'homme, véritablement. Et cette notion du cœur est une notion centrale sur laquelle il revient constamment, et en cherchant des ressources dans la tradition orientale, mais en utilisant aussi tout ce qui, au cours du XXe siècle, pouvait aider à actualiser cette façon de voir l'homme. Et je voudrais juste lire un passage tiré de L'Œil du Feu, où il parle d'un philosophe russe du XXe siècle, Boris Vyacheslavtchev, assez peu connu en France, qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse. Je cite donc ce que Olivier Clément en dit. L'éros, dans la plénitude de son sens, est un élan ontologique dont la sexualité n'est qu'une expression. L'ailleurs se révèle dans le cœur, centre le plus central et le plus extatique où l'homme peut s'ouvrir à la sollicitation de l'absolu. On pourrait dire que le cœur est surconscient, qu'il y a du surconscient dans l'inconscient et qu'il s'agit là de l'image de Dieu dont parlent les pères de l'Église. Je trouve ça assez emblématique de sa démarche, c'est-à-dire de retrouver l'essentiel et le trésor de la tradition en essayant de la formuler avec toutes les ressources auxquelles sa formation d'historien donnait accès du monde contemporain.
Écoutez, si vous voulez bien, on va aller un peu plus loin pour trouver un autre sujet qui lui tenait vraiment beaucoup à cœur. C'est celui de l'amour et de l'éros et de la relation de l'éros avec la sexualité, un problème sur lequel il s'est vraiment penché plusieurs fois. Donc, nous écoutons de nouveau des extraits de cette émission avec Françoise Favier. Et la question se pose donc sur les rapports entre éros et chasteté.
Je crois que l'éros ne prend son sens qu'à travers une notion que nous comprenons très mal aujourd'hui, qui est la notion de chasteté. La notion de chasteté ne veut pas dire la continence. On peut imaginer des gens tout à fait continents et qui ne sont pas chastes du tout, dont l'imagination est obsédée, au contraire. Il peut y avoir aussi une nuptialité de l'homme et de la femme qui est chaste. Tout le problème, c'est que toute la puissance de la vie, au lieu de nous disperser, de nous dissocier, de faire de l'autre un instrument de mon plaisir, simplement, soit intégrée dans une rencontre et devienne le langage d'une rencontre, devienne le langage de la tendresse. Je crois qu'il y a là quelque chose de tout à fait essentiel et qu'il faut dire aux hommes d'aujourd'hui. J'ai trouvé absurde le contentement de certains de mes amis catholiques qui m'ont dit « Oh, mais vous savez, dans le nouveau catéchisme, on dit que le plaisir très légitime. Je leur dis, mais il ne faut pas chercher le plaisir. Un homme qui va vers une femme pour chercher le plaisir, il pratique déjà ce que Jésus appelle la porneia, c'est-à-dire l'objectivation de l'éros. C'est simplement pour célébrer un amour, pour dire un amour. C'est pas du tout le plaisir est peut-être donné, mais ça n'a aucune importance. Ce n'est pas le plaisir qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment la rencontre. Et je crois que la chasteté, c'est l'éros intégré dans une rencontre. Alors, bien entendu, pour le moine, la rencontre se fait directement, si j'ose dire, avec le Christ. Et il devient alors, comme disait un vieil ascète, séparé de tous et uni à tous. Avec cette capacité, par conséquent, de rencontrer tout être humain, et si c'est un homme, toute femme, sans rien de carnivore, dans une espèce de tendresse et de paix tout à fait désintéressée. Je crois qu'il faut dire ça aux hommes d'aujourd'hui. Je pense qu'ils le cherchent. Je suis persuadé, je connais beaucoup de garçons, de filles en particulier, qui ne demandent qu'une chose, vivre un vrai, un humble et grand amour.
Voilà donc Eros et chasteté. Et la question se pose tout de suite sur un amour désintéressé.
Tout amour est soupçonné. Il y a une espèce de sexualisation, de hantise, de l'inceste, n'est-ce pas? Toute relation devient finalement une relation sexuelle. Il faut inverser tout cela. Bien sûr qu'il y a de l'éros dans tout cela, mais cet éros peut être transfiguré. Vous savez que dans l'Évangile, le mot éros n'est jamais employé. Le mot qui est employé, c'est le mot agapé. Et le mot agapé désigne justement un amour que Dieu nous donne et qui est un amour désintéressé. Et l'éros, lui, c'est une tension, c'est un élan, et il faut que l'éros et l'agapé s'unissent. Et nous avons besoin de pères spirituels qui soient capables justement de cet amour désintéressé, de pères spirituels, de mères spirituelles, de possibilités aussi d'amitié. C'est une chose tout à fait extraordinaire, cette amitié qui peut exister en dehors de la sexualité. Bien sûr, on pense toujours à François d'Assise et à Sainte-Claire, et on pourrait penser à Saint-Jean Chrysostome et à la diaconesse Olympias, mais je pense à ce livre étonnant qui vient de paraître. Ce sont des lettres vraies d'une grande militante socialiste qui s'appelait Colette Aubry, si je ne me trompe, et qu'elle avait adressée à un moine bénédictin avec qui elle a vécu une sorte de lien extrêmement profond. Et à la fin, elle lui dit « Vous n'avez pas ébranlé mon athéisme, mais vous m'avez fait découvrir la tendresse et il n'y a rien au-delà. » Et c'est le titre du livre « Rien au-delà ». Si elle a découvert la tendresse, elle a découvert Dieu.
Voilà. Il livre donc son message à travers ce qu'on vient d'entendre, mais il a aussi beaucoup écrit sur ce sujet. Que proposez-vous comme lecture?
Alors, il y aurait beaucoup à apprendre, hein, parce que c'est vrai que la question de l'éros est un fil rouge dans son œuvre. J'aimerais repartir d'abord d'un moment de sa vie, qui est un moment assez révélateur. On est au mois de mai 68. Olivier Clément est professeur au lycée Louis-le-Grand. Et il voit une partie de ses élèves, peut-être certains de ses collègues, participer au mouvement du mois de mai. Il s'interroge et il va chercher ses réponses en partant au cours du mois de juillet rencontrer le patriarche Athénagoras, dont il tirera des dialogues, hein, qui sont un grand et admirable ouvrage. Et après avoir passé ce temps, il revient, il écrit un texte tout à fait essentiel, qui est une interprétation de mai 68 comme une liturgie de la Révolution. Et comme une liturgie de l'éros. Et il essaye de discerner à la fois les attentes, l'aspiration à un amour, à un éros, qui soit véritablement transfiguré. Il essaye de dire cela au sein de ce brouhaha et de cette effervescence. Et c'est quelque chose qui lui a tenu à cœur et qui est vraiment central. Il y reviendra plus tard, plus longuement, ce qui est surtout en faisant toujours le lien entre éros et cosmos. Pour Olivier Clément, Olivier Clément part du conflit ou de la tension qui est entre le christianisme ou la pensée chrétienne et l'éros. Pour lui, cette tension, elle a été féconde. Il fallait un moment qu'il y ait une rupture, puisque le christianisme, en affirmant la personne, arrachait la personne au cosmos. Et du coup, l'éros sacral, l'éros enfoui dans le culte de la déesse Terre, cet éros-là devait être transfiguré en passant par ce creuset de la personne et par une purification. Et ce qu'il espérait, ce qu'il pressentait, c'est une réconciliation de l'un de l'autre. Et je voudrais lire un texte, je vais en prendre des dizaines, hein, où il évoque justement cette réconciliation du cosmos et de l'éros. « Ainsi allons-nous sans doute, après un long et ruineux conflit, vers une assomption du cosmos et de l'éros dans un christianisme renouvelé. La perspective, désormais, ne peut plus être que celle de la personne et de la communion des personnes. Il n'y aura pas de restauration des religions de la nature sacrée, réinvention d'un tantrisme, mais une théopoétique de la communion permettra de retrouver le cosmos comme célébration, l'éros comme élan vers une unité duelle, accueillante à l'exclu, à l'orphelin, à ce petit hôte inconnu qu'est l'enfant.
De quel livre ?
Alors c'est toujours un extrait tiré de L'œil de feu que je citais tout à l'heure déjà, hein, qui est un ouvrage auquel j'accorde une assez grande importance parce que il recueille à la fois des textes du moment de la recherche d'Olivier Clément avant sa conversion et des textes beaucoup plus tardifs, hein, des années 90, et qui montrent bien l'unité de sa pensée et que cette conversion ne veut pas dire une rupture, hein, et qu'il y a véritablement une assomption entre l'éros et le cosmos dans sa propre vie, hein, qui lui permet après de l'annoncer.
Merci beaucoup. Pour terminer, peut-être sa vision sur l'histoire. Il était historien, vous-même, vous insistez beaucoup dans votre livre sur sa qualité d'historien. Alors, quelle vision a-t-il de l'histoire ?
Oui, c'est vrai qu'Olivier Clément, historien de formation, de métier, il était professeur d'histoire toute sa vie. Et il a toujours essayé de transmettre l'idée d'une histoire souterrainement fondée dans la vie spirituelle. Il y a des ressources. Hein, l'histoire échappe peut-être simplement à une approche purement matérialiste ou chronologique. Il y a des ressources, le royaume est un creuset dans les sous-sols de l'histoire et c'est lui qui tient cette histoire debout. Et donc le travail de l'historien ou des acteurs de l'histoire est de faire émerger le royaume, d'apporter une sorte d'ouverture, hein, de déchirer le temps éventuellement, hein, puisque l'histoire est pour lui un long fleuve de feu. Hein, pour reprendre de ses expressions favorites. Et alors, ça, c'est quelque chose qu'il a appris à la fois de Nicolas Berdiaev, le philosophe religieux russe, à la fois de Vladimir Lossky, qui avait une connaissance très forte de l'histoire occidentale, et aussi de son premier maître que j'évoquais tout à l'heure, Alphonse Dupron, hein, qui est un des fondateurs de l'anthropologie religieuse contemporaine.
Cette émission est la première donc, de l'hommage que nous lui rendons, mais on peut déjà proposer à nos auditeurs une lecture de Clément. Si on veut commencer à lire Clément, par quoi faut-il commencer ?
Alors, j'aurais aimé conseiller L'autre soleil. Malheureusement, cet ouvrage, cette autobiographie spirituelle est épuisée pour le moment. Elle sera peut-être rééditée. Il y a un autre ouvrage qui est un entretien réalisé avec Jean-Claude Noyer qui s'intitule « Mémoire d'espérance » qui propose à la fois un parcours sur l'ensemble de son parcours lui-même, pardon, de sa conversion et ses principales thématiques. C'était publié chez Desclés de Brouwer en 2003, il me semble.
Et c'était bien l'ouvrage qui constituait le sujet de notre émission dont on a diffusé des extraits tout à l'heure, au moment de sa sortie, quand Clément était déjà fatigué, comme on l'a dit. Un grand merci à Franck Damour. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud, et pour la rediffusion, Anne Pérez et Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.